Le paysan d'Alaise, chapitre 2.1. Gaspard n'avait pas fait une vaine fanfaronnade. Moins de 15 jours après sa rencontre avec le charbonnier, les deux villages ne s'entretenaient plus que de ses amours avec la belle Cyprienne. On les avait vus causer ensemble près du rucher. Gaspard, qui depuis plusieurs années n'avait pas paru à l'église, était à la messe le dimanche précédent. Cyprienne, si coquette jusqu'alors, s'était montrée tout à coup froide envers les autres garçons. Michel ne pouvait plus descendre à Alaise ou à Sarah sans avoir le cœur déchiré par 20 récits de ce genre. Pour se soustraire à une telle torture, il prit le parti de passer hors du massif toutes ses journées du dimanche en excursion à travers les régions les plus sauvages du pays. Michel s'applaudissait beaucoup de ses courses désordonnées qui changeaient le cours habituel de ses pensées. Il avait résolu de visiter un dimanche la sauvage cascade du Pont du Diable et la magnifique forêt de sapins qui commence à moins de 2 lieues d'Alaise. Mais, le dimanche venu, au moment même où il allait se mettre en route, l'image de Cyprienne s'empara si fortement de lui qu'il ne put résister au désir de la voir. Il alla à Alaise. La vie au sortir de la messe n'osa point lui parler. Joua aux quilles. Le jeu de quilles touchait à la maison de la belle villageoise et perdit tout ce qu'il avait apporté d'argent. Cette journée fut loin cependant de lui être défavorable. Comme il retournait aux fourries, découragé, tout mécontent de lui-même, il s'entendit appeler par un individu posé au bord du bois et qui n'était autre qu'Urbain Bordy, le père de Cyprienne. « J'ai à te parler, lui dit Urbain, mais d'abord avoue une chose. Tu aimes Cyprienne, n'est-il pas vrai, mon garçon ? Alors ne rougis pas, je suis bien loin de t'en faire des reproches. » Michel avoua son amour en exprimant toute sa surprise de voir le père de Cyprienne initier un secret qu'il croyait n'avoir jamais laissé soupçonner à qui que ce fût. « C'est bien simple, mon garçon, dit le père Urbain. À mon âge, on ne dort pas toute la nuit. Je t'ai vu arracher le cerisier et planter l'if. Cyprienne ne sait rien de tout cela, et bien heureusement, elle en serait morte de chagrin. Elle a de l'honneur, vois-tu, Michel. Elle en a, je le sais, moi qui suis son père. Tout son sort est d'être bien jeune, et peut-être l'ai-je un peu gâté. Sa mère était morte, et je n'avais qu'elle pour tout enfant. Tu l'as sauvée, Michel, en arrachant ce cerisier maudit. Je viens te demander de la sauver encore une fois. Gaspard la poursuit, tu ne l'ignores pas. Et hier, il a osé me la demander. À lui, ma fille, ma Cyprienne, il la ruinerait et en ferait la plus malheureuse des femmes. Il me sait vieux, et c'est ce qui l'enhardit. Il faut que tu la voies, Michel, et que tu te fasses aimer d'elle. Tu te gênes trop avec les filles. C'est bon avec les demoiselles de la ville. Mais au village, il ne faut pas tant de miettes ni tant de façons. Plaisante avec elle, comme font les autres garçons. Amuse-la et fais-la rire. Je suis son père et je te le permets. Je t'aiderai tant que je pourrai. Je parlerai chaudement pour toi. Il faudra bien qu'elle finisse par nous écouter. Tu viendras demeurer avec nous. Dieu veuille que ce soit bientôt. Allons, mon garçon, puis-je compter sur ta parole ? Michel ne s'était attendu ni à un tel allié, ni à une telle proposition. Il remercia le père Urbain avec effusion, et tous deux convinrent que le jeune homme ferait dès le lendemain une première démarche près de Cyprienne. Comme il importait qu'elle ne sût rien de leur accord, le père Urbain dut ne pas assister à l'entrevue. Le matin, Michel était prêt de très bonne heure. Mais comment aborderait-il la jeune villageoise et avec quelles paroles ? Le charbonnier trouva Cyprienne seule au poêle et jouant avec un oiseau apprivoisé que lui avait donné Gaspard. « Bonjour, Michel, dit-elle au jeune homme. Vous voilà beau comme pour une procession de fête-dieu. Vous avez à parler au père Urbain, n'est-il pas vrai ? Il doit être au village, je vais le chercher. » « Ne vous dérangez pas, Cyprienne, répondit le charbonnier, j'attendrai. Savez-vous que vous avez là un joli bouvreuil ? Sait-il chanter ? » L'oiseau parut avoir compris la question. Car il se mit sur le champ à siffler une chanson du pays. « Moi aussi, fit Michel, j'ai un oiseau apprivoisé. mais il n'est pas aussi joli que le vôtre. Je n'ai pas peur de le noircir en le caressant, c'est un corbeau. Je n'ai jamais pu lui apprendre que trois mots qu'il répète 100 fois par jour. Mais je n'ose pas vous les dire, vous vous fâcheriez. Lesquels? Demanda Cyprienne, à moitié curieuse, à moitié indifférente. Vous allez vous fâcher, dit Michel en rougissant. Eh bien, ce que dit mon corbeau, c'est j'aime Cyprienne. Et il dit ces trois mots 100 fois par jour. Voilà un corbeau galant, repartit vivement Cyprienne. Si l'oiseau parlait si bien, que sera-ce de la personne qui lui a fait la leçon? Mais oh, Michel, je vous écoute. Cyprienne avait dit ces paroles d'un ton de gaieté railleuse. Écoutez-moi sa moquerie, dit Michel tout à fait ému. Vous êtes riche et je n'ai rien. Vous êtes belle à rendre jalouse toutes les filles du pays, et moi je ne suis qu'un pauvre charbonnier, noir comme suie 6 jours de la semaine. Et cependant, je vous aime, Cyprienne. Je vous aime depuis le jour du mariage de votre cousine Sidonie, il y aura bientôt 2 ans. Vous étiez en blanc avec toutes les filles du village. C'est vous qui avez fait le compliment aux mariés, vous vous en souvenez bien, et qui leur avez présenté les dragées de noces et le mouton, tout couvert de rubans. La mariée passait pour jolie, mais personne ne la regardait. Tous les yeux étaient fixés sur vous. Depuis ce jour, je vous aime. Mais personne n'en a rien su, pas même vous, Cyprienne. J'aurais continué à me taire, mais j'ai appris ces jours derniers qu'un véritable danger vous menaçait. Vous m'effrayez, Michel, dit la moqueuse villageoise en riant aux éclats. Notre maison court-elle le risque de tomber? Y a-t-il des vipères dans ces fagots? J'ai une peur mortelle de ces bêtes-là. Parlez, Michel, parlez, je vous en prie. Votre maison est solide, et vous n'avez rien à craindre des vipères. Mais il y a bien d'autres dangers pour les personnes jeunes et confiantes comme vous. Demandez au père Urbain ou à monsieur le curé. Tous deux vous diront qu'à mal placer sa confiance, on s'expose à tout perdre, et qu'être mordu par une vipère n'est pas toujours le plus grand des malheurs. Bien prêché, Michel. Mais dites-moi, ne craignez-vous pas qu'on vous réponde comme au putois la poule? Tu me détournes du renard, putois. C'est pour m'attirer vers ton trou. Cette ironique sortie eût peut-être achevé de déconcerter le jeune homme, s'il n'eût pas eu un de ces cœurs sans alliage, qui ne manque jamais de rendre au moins de choc le son pur de l'honnêteté. Cyprienne l'avait blessé au vif. Il répondit, non plus en amant timide et gauche, mais en honnête homme qui se sent outragé. Moi, vous ne me connaissez pas, Cyprienne. Je vous aime, c'est vrai, mais je sais ce que je suis et ce que vous êtes. Pourquoi ne suis-je pas votre frère? Je vous parlerai à cœur ouvert. Je pourrais tout vous dire et peut-être finiriez-vous par m'écouter. Mais je n'ai pas les droits d'un frère et il a bien des choses qu'il faut que je taise. Puissais-je me tromper? Puissiez-vous être heureuse avec celui qui vous poursuit maintenant? Mais si jamais mes craintes venaient à se réaliser, votre père est vieux. Appelez-moi à votre défense, Cyprienne. J'accourrai avec ce cœur prêt à tout braver pour vous et avec ces bras qui n'en craignent point d'autre. Et alors? Malheur à celui dont vous aurez eu à vous plaindre. Adieu, Cyprienne, je rentre au Fauris. Je ne vous importunerai plus de mon amour. Oubliez tout ce que je vous ai dit d'abord, et ne vous souvenez que de mes dernières paroles.